Bienvenue à tous pour notre retraite, une retraite que nous allons vivre en communion avec les 19 bienheureux martyrs d'Algérie. Pourquoi ai-je à cœur de faire appel aux bienheureux martyrs d'Algérie pour vivre avec nous cette retraite? Parce que je crois profondément qu'ils vont nous aider à approfondir ce à quoi notre Église est appelée. Au moment de l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'Église d'Algérie connut un profond bouleversement, une période de dénuement complet, c'est-à-dire que pratiquement tous les fidèles sont partis. Et l'intuition du cardinal Duval était que l'Église devait rester en Algérie et qu'elle devait devenir une Église pour les Algériens. Beaucoup des congrégations qui étaient présentes en Algérie se sont vues privées de leur œuvre d'éducation, de santé, et ont donc dû réinventer une manière d'être présent dans la population algérienne. Toujours au cours de notre retraite, les bienheureux martyrs d'Algérie vont nous aider et nous encourager à prier, en nous partageant ce qu'est pour eux la prière et comment ils prient. Ils vont également nous partager leur grand amour de l'Eucharistie et nous éveiller à ce à quoi l'Eucharistie nous engage, nous aidant ainsi à faire le lien entre l'Eucharistie et notre vie de tous les jours. Grâce aux bienheureux martyrs d'Algérie, nous approfondirons également ce que saint Paul appelle le langage de la croix. Enfin, nous apprendrons également des bienheureux martyrs d'Algérie comment accueillir le don que Jésus nous fait de Marie pour qu'elle soit aussi notre mère. Cela dit, vivre notre retraite en communion avec les bienheureux martyrs d'Algérie, ce n'est pas seulement parler d'eux et nous inspirer d'eux, même si c'est déjà très bien. Mais c'est aussi nous adresser à eux, dans la foi qu'ils sont vivants près de Dieu, et que parce qu'ils sont vivants, nous pouvons leur demander de prier pour nous, afin qu'ils nous aident à faire Église, à prier, à redécouvrir l'Eucharistie, à parler le langage de la croix, et à accueillir Marie chez nous. Notre retraite ayant pour titre « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », nous allons approfondir ce que signifie concrètement donner sa vie à la lumière de la manière dont les bienheureux martyrs d'Algérie ont donné leur vie. Mais pour pouvoir donner, il faut d'abord recevoir. Voilà pourquoi nous commençons notre retraite avec un évangile qui évoque l'importance de recevoir avant de donner. C'est l'évangile du lavement des pieds. Nous pouvons le lire en Jean, chapitre 13, versets 1 à 20. Cet évangile nous enseigne que seul celui qui se laisse laver les pieds peut à son tour laver les pieds des autres, ou plus exactement peut entrer dans la réciprocité de l'amour. Il apprend constamment du Christ cette manière d'aimer. Laver les pieds est un geste que l'on reçoit d'autres et que l'on peut faire à son tour. Il faut l'avoir reçu pour pouvoir entrer dans le don. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux avoir part avec moi. Même Jésus l'a reçu. Rappelons-nous qu'au moment d'entrer dans sa passion à Béthanie, Jésus reçoit ce geste d'une femme. L'évangile de Jean, au chapitre 12, versets 1 à 11, nous rapporte en effet que lors d'un repas à Béthanie, et où était présent Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Jésus ne se dérobe pas à l'amour. Ce geste reçu ouvre la passion et le don de sa vie. Jésus reprend en compte ce geste au cours du dernier repas. Il laisse ce geste en testament à ses apôtres. C'est ainsi que l'Eucharistie nous rappelle que seul l'amour reçu donne naissance au véritable don de soi. Les bienheureux martyrs d'Algérie avec qui nous allons vivre cette retraite ont tous reçu la vie pour pouvoir la donner. C'est cette vie reçue qui a rendu possible leur vie donnée. Pour ne donner qu'un exemple, il faut savoir que ce qui a conduit l'un des 19 bienheureux, Christian de Chergé, à donner sa vie pour Dieu et pour l'Algérie, c'est le don d'une vie qui lui a été offerte et qui l'a protégée de la mort, celle de Mohammed, un musulman. Dans le sang de cet ami, dit Christian, j'ai su que mon appel à suivre le Christ devrait trouver à se vivre dans le pays même où m'avait été donné le gage de l'amour le plus grand. Écoutons Christian nous raconter lui-même le récit de cette vie donnée pour lui. Ce récit vécu, je ne l'avais jamais écrit, pudeur encore sans doute. Et voici qu'en mai dernier, pour un dernier sujet de rédaction en arabe, notre professeur, une religieuse libanaise, nous demanda de parler d'un exemple d'héroïsme ou de générosité ou d'abnégation dont nous aurions été les témoins dans le pays du monde arabe qui nous tenait à cœur. L'invitation me parut directe. Les mots pour le dire vinrent aisément, un petit miracle, et pour une fois notre professeur eut la joie de voir le fond et la forme se coaliser pour balbutier quelque chose d'essentiel, les maladresses elles-mêmes servant à exprimer ce qu'aucune langue ne peut dire, fût-ce la plus belle de toute l'arabe. Je ne changerai rien ici à ce récit, essayant de traduire à peu près l'original qui reste confié à la langue maternelle de l'ami d'hier et d'aujourd'hui, Mohammed, alias Belkacem. C'était mon ami, et c'est encore mon ami plus que jamais, dans la profondeur mystérieuse de la communion des saints où il m'a devancé. Il aurait pu être mon père, de fait, lorsque nous nous sommes connus, il m'a très vite adopté comme si j'étais l'aîné de ses 11 enfants. J'arrivais dans son pays, jeune et inexpérimenté, là où il avait toujours vécu. Je venais de recevoir une responsabilité administrative dans la commune où il était garde champêtre. J'avais 22 ans et il avait dépassé la quarantaine, mais ensemble nous n'avions plus d'âge. Il était musulman, sincère et pratiquant. J'étais séminariste et il le savait. Entre nous, il y avait Dieu pour nous unir et nous respections le mystère de ce lien comme appartenant à celui qui sait. Il ne s'étonnait pas que je parle du Christ et je trouvais normal qu'il me cite le Coran. J'appréciais la joie contenue de son caractère, la constance de son dévouement, la simplicité de ses goûts, la dignité de sa pauvreté. Et surtout peut-être ce sourire de confiance qui semblait chercher en vous un trésor caché lorsqu'il vous parlait ou vous regardait. Nous sortions ensemble quasiment tous les jours. Un jour, notre groupe essuya quelques coups de feu, venus d'on ne sait où. Aussitôt, il y eut quelqu'un devant moi. Le sens de son geste me parut évident. Nous n'en parlâmes jamais par la suite. Ces événements ont 15 ans. mais ils sont d'aujourd'hui. Notre compagnonnage aura duré 4 mois à peine, mais Mohamed, c'est son nom, est désormais le compagnon tout proche d'un appel qui m'a retenu au pays où il repose dans l'attente de la résurrection. Que Dieu lui fasse miséricorde. Il commença à recevoir des lettres le menaçant de mort s'il ne donnait des preuves de son attachement à la libération nationale. Il savait ce que cela voulait dire. Ses amis, ses frères, tout contribuait à l'écarteler et à le menacer dans la vie qu'il se savait prêt à donner pour les uns et les autres. Pourquoi fallait-il qu'on la lui prenne? Nous avons porté ensemble cette menace, essayant de la conjurer. À un moment, il eut peur, puis ce fut la résignation presque joyeuse, comme un sacrifice accepté au nom de ce Dieu écrit pour le bien de chacun. Le fameux Mektoub n'est pas fatal puisque le paradis s'est aussi écrit. Un dimanche, 8 jours après la Toussaint, il fut tué dans le dos tandis qu'il puisait de l'eau à son puits. Au plus fort du désarroi, je lui avais promis désarmé, « Je prierai pour toi, Dieu peut tout. » Il m'avait alors répondu, « Oui, Dieu peut tout, mais les chrétiens ne savent pas prier. » Un défi? Non, un appel. Fin du récit. Ce défi, la mort lui a donné le sens d'une relève et aussi d'une communion possible. Il appartient pleinement à l'Église qui intercède. Mohamed ne peut oublier l'Église qui s'efforce ici de revivre dans l'humilité la prière et de découvrir que l'Évangile respire mieux lorsque toutes les façades s'effondrent. Une Église qui accepte aussi que l'Esprit du Christ se serve d'autres croyants pour lui parler au cœur et la rappeler à l'ordre. Ici, les chrétiens vont se scandaliser. Nous avons la vérité. Et après, à quoi vous sert-elle? Puisque c'est à elle de vous avoir. Va-t-on reprocher au Christ d'avoir reconnu cette vérité de vie dans la foi de la Syrophénicienne ou du centurion, comme dans la charité des Samaritains, et de l'avoir cherchée en vain chez les siens? Oui, la prière et l'amitié d'un musulman m'ont conduit à Jésus. C'est donc pour avoir protégé Christian que Mohamed meurt assassiné. Christian en est profondément bouleversé. Il reçoit le geste de Mohamed comme le gage de l'amour le plus grand qui lui ait été donné. Il y reconnaît l'Évangile. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christian reconnaît dans le geste de Mohamed le geste même du Christ donnant sa vie pour nous. Mais, au-delà de l'émotion suscitée par cette vie donnée pour lui, Christian se laissera transformer par ce geste et il le laissera résonner en lui jusqu'à la fin de sa vie. Il y reçoit un appel personnel, une vocation nouvelle. C'est ainsi qu'alors que la vie de Christian était déjà intimement engagée depuis longtemps vers une vie consacrée comme prêtre diocésain, voilà que dans le don que Mohamed a fait de sa vie par amour pour lui, s'éveille sa vocation monastique en terre d'Algérie. Nous pouvons donc dire que Christian reçoit sa vocation de moine chrétien par un musulman. Sa vie entière, Christian reviendra à ce geste d'amour fondateur de sa vocation. Par ce geste, il entrera aussi dans une compréhension nouvelle de l'Eucharistie. Il comprend que l'Eucharistie est non seulement pour vous, mais pour vous et pour la multitude. En accueillant le don que Mohamed a fait de sa vie par amitié, en y reconnaissant le geste même du Christ, Christian à son tour donnera sa vie. Tel est le mystère du don. Vie reçue et vie donnée. Admirable échange que l'Eucharistie ne cesse de rendre présent à chaque célébration. Si tout le monde n'a pas expérimenté d'avoir eu la vie sauve par le don de la vie d'un autre, Chacun expérimente un amour premier, un amour reçu, là où il n'a pas peiné, là où il n'a rien mérité. Chacun fait l'expérience d'être aimé. Cet amour reçu peut prendre des formes diverses. À travers cet amour que chacun reçoit, il peut reconnaître l'amour même de Dieu. La démarche que je nous propose ce soir au moment où nous entamons cette retraite, c'est de faire mémoire de l'amour que nous avons reçu depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Laisser résonner en nous des gestes d'amour que nous avons reçus et qui ont transformé, qui ont été fondateurs, importants dans notre vie. En relisant et en méditant notre propre histoire, voyons par quel chemin l'appel de Dieu a pris forme pour nous, par quelles personnes et quels événements le Seigneur nous a parlé et nous parle encore aujourd'hui. Les personnes rencontrées sont en effet souvent des messagers et certains événements des messages. Faisons donc mémoire de notre histoire. La vie, nous l'avons reçue de Dieu. Ce don de Dieu nous a été transmis par nos parents. La vie divine, nous l'avons aussi reçue de Dieu. Elle nous a été donnée par le sacrement du baptême. Cette vie est un don à accueillir chaque jour. Il y a des jours où il est plus difficile de l'accueillir. Il peut arriver aussi que pendant des jours, des mois, voire des années, nous ayons mis de côté l'un ou l'autre don reçu de Dieu, et que suite à telle ou telle circonstance, nous les retrouvons, nous les réaccueillons. Eh bien, ce soir, au début de cette retraite, je nous invite, je dis nous car je vis cette retraite comme vous et avec vous, je nous invite à une prière d'action de grâce pour la vie reçue, pour la vie divine reçue le jour de notre baptême, pour tous les gestes d'amour que nous avons reçus depuis notre naissance. Si chacune et chacun des bienheureux martyrs a pu donner sa vie, c'est parce qu'ils l'ont tout d'abord reçue. Ils accueillaient ce don jour après jour. Au cours de cette retraite, stimulés par les bienheureux martyrs d'Algérie, nous allons accueillir ces dons de Dieu que sont l'Église, la prière, l'Eucharistie, la croix et la Vierge Marie, tous ces dons par lesquels Dieu nous donne sa vie. Parmi ces dons de Dieu, peut-être en avons-nous mis certains de côté pour diverses raisons, des raisons qui peuvent être bien compréhensibles, s'expliquer par l'une ou l'autre raison. Cette retraite pourra être l'occasion de les réaccueillir ou même de les accueillir. Nous allons voir comment les bienheureux martyrs d'Algérie ont eux-mêmes accueilli ces dons et comment, fort de ces dons, ils ont donné leur vie jour après jour. Pour bien entrer dans cette retraite, pour l'accueillir comme un don de Dieu pour chacune et chacun de nous, accueillons ce conseil que donnait un des 19 martyrs d'Algérie, Pierre Clavry, à chaque fois qu'il prêchait une retraite. Pour moi, une retraite, nous dit-il, ce n'est pas d'abord un temps de crispation qui consisterait à revenir sur soi pour examiner ce qui ne marche pas, puis à prendre des résolutions. Cela ne marche jamais. Ce n'est pas la peine d'essayer. Je crois que le plus important, au contraire, est de se décrisper, de ne pas trop chercher à revenir sur soi, parce que c'est en se décrispant, et donc en s'assouplissant intérieurement, que nous avons le plus de chances de laisser Dieu faire. Personnellement, je vous conseillerais plutôt de décrocher l'espace de quelques jours et de ne plus chercher à faire face, à calculer, à composer, à changer vos comportements. Vous n'avez rien à craindre de personne, pas même de Dieu, et si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Détendez-vous, dormez, promenez-vous sans penser à rien. C'est alors que quelque chose pourra changer au cœur et pas seulement dans les actes, les gestes, les comportements. Si nous nous disposons à laisser Dieu faire, il agira à sa manière. On ne change pas à coup de volonté. Je ne dis pas que la volonté est inutile, on peut changer, mais extérieurement. Or, c'est le cœur qui doit changer, ou du moins, cela doit changer au cœur. Je ne dis pas qu'on y arrivera. Pour moi, c'est un chemin que j'aime prendre, alors je vous invite à le prendre avec moi, au moins pour 6 jours. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Se décrisper, laisser Dieu faire, parce que nous portons en nous-mêmes des trésors intérieurs, des trésors cachés, et que nous leur donnons peu de chances d'émerger à la surface. Dans nos relations mutuelles, il est difficile d'exprimer ce que nous portons au fond de nous-mêmes. Nous ne nous faisons pas assez confiance, ou nous nous connaissons trop. En tout cas, cela reste souvent enfoui, et nous n'avons pas conscience que cela existe. Ce qui me paraît important de trouver, de laisser émerger, est ce que saint Augustin appelle l'habit intérieur du cœur. Et pour cela, il nous faut nous décrisper, aller à l'intérieur. Et si nous y trouvons ce trésor, nous pouvons, comme dit saint Augustin, aimer et faire ce que nous voulons. Il n'y a plus de crispation. Cela devient naturel. Le surnaturel devient naturel, comme dit Bègue. Bonne retraite à tous.